8 mai 2024, jour 1 transatlantique. Départ, le marin. Ça y est, c'est le grand jour. Départ prévu à 11h. Enfin, à moins que. Message à 8h30 de David, notre capitaine. Problème de batterie. On est 8 mai, c'est férié. On partira sûrement pas aujourd'hui. Autant dire que ça commence bien. Mais, Eureka! David a trouvé une solution, tout seul. Ouf! Avec un peu de retard, nous sommes donc avec Laura, Lisa et David sur l'annexe chargée direction notre futur compagnon de voyage. Après une frayeur en remontant l'ancre, la chaîne s'est désaxée et un arrêt au ponton essence, il est 15h25 et c'est l'heure officielle de notre départ pour la transatlantique depuis Le Marin en Martinique. Et la journée n'est pas finie. À peine sorti de la baie et tout proche du diamant, un dauphin fait son apparition et nous accompagne pendant quelques minutes. Comme pour nous souhaiter bonne chance et bon voyage. Au passage, je suis trop content, car je n'en avais pas encore vu en Martinique ces dernières années. C'est un signe. Quelques heures plus tard, après avoir mangé, tout en regardant la demi-finale retour de la Ligue des Champions, et ouais, Transat de luxe, nous sommes au milieu du canal de la Dominique, donc l'île au nord de la Martinique. Et alors qu'il est environ 2h du matin, que c'est le quart moment de surveillance du bateau de David, et que je suis réveillé, notre grand voile, GV, se déchire. On n'avait pas dit que ça devait bien recommencer ? Bon, autant que ça arrive maintenant. On finit donc au moteur le trajet jusqu'aux Saintes, à côté de la Guadeloupe. Et on changera la GV là-bas. Sur ce, il est actuellement 4h30 pendant mon quart lorsque j'écris ces lignes au large de la Dominique. Alors je vous dis à demain aux Saintes.
C'est trop bien.
Ah ouais.
Ouais. Moi, j'avais. C'est vraiment, ça m'a emmené.
Vous étiez dans le voyage.
Ouais. J'ai vu le dauphin, quoi. j'ai vu la voile qui se déchire.
Je me suis baignée avec le dauphin.
C'est ça.
Et bah, c'est un sacré premier jour de voyage en mer, océan.
Ah ouais,
waouh. Et est-ce que du coup, à ce moment-là, t'as eu une appréhension à continuer ou en fait pas du tout ?
À continuer, non, pas du tout. Après, c'est que en fait, ouais, j'étais déjà parti en croisière avec lui, avec mon père. On était parti aux Grenadines, dans des îles au sud de la Martinique. J'avais fait beaucoup de bateaux quand j'étais là-bas. Donc j'étais parti dans les Grenadines, j'étais parti aussi en Dominique avec un autre copain. J'avais fait beaucoup de bateaux autour de la Martinique, un petit peu à la journée, quoi, où on faisait des sorties souvent très alcoolisées. Et où on pêchait des fois et tout. Enfin bref, c'était bien marrant. Mais du coup, j'étais déjà parti avec le capitaine. Et en fait, c'est un bon marin. Mais quand j'étais parti avec lui, c'était un marin qui était très stressé et qui du coup pouvait avoir des réactions face aux situations qui pouvaient être un petit peu des fois où je me disais, oula, tu vois, il peut y avoir d'autres trucs. Et du coup, là, j'ai vu qu'il se déchire. Tu vois, moi dans ma tête, je me dis. Parce que lui, du coup, évidemment, me dit putain, bah, la voile était juste abîmée. Et puis voilà, enfin, on en avait une de rechange, donc derrière, on a changé. Enfin, je le raconte après. Mais y avait tout ce truc de putain, mais en fait, est-ce que c'est de sa faute si elle a été déchirée, tu vois?
Ok. Ouais. Donc avoir un peu
le petit truc de.
Est-ce que je peux lui faire confiance?
Ouais, à fond. Parce que moi, c'était une des grandes interrogations avant de partir, parce que j'ai mis, en fait, il m'a proposé. Mais je le raconterai après, mais il m'a proposé, j'ai mis genre 3 mois avant de dire vraiment, enfin peut-être 2 mois avant de dire oui, un truc comme ça. Alors j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant parce que c'était quand même quelque chose.
C'est pas rien comme expérience.
Ouais, et puis en fait moi j'avais plusieurs trucs, j'avais un pote, il y a des potes à lui, ils étaient déjà partis faire la transatlantique et ils ne sont jamais été retrouvés. Alors, ils étaient 3 ou 4 sur un bateau, 3 ou 4 potes à lui, ils ne sont jamais été retrouvés. Alors le bateau disparaît.
Waouh, ouais, c'est des histoires.
Ouais, voilà, tu vois, il y avait 2-3 trucs comme ça. Ça d'ailleurs, je l'ai pas dit.
C'est des pirates.
Je l'ai pas dit à ma famille et à mes potes autour, tu vois. Enfin, avec qui on partait, tout. J'aurais pas dit ça. Mais moi, je savais ça. Je savais aussi que du coup, David était. J'avais confiance en lui, mais je savais que c'était pas le meilleur des marins et que c'était quelqu'un surtout de plutôt stressé. Et du coup, j'ai mis du temps à prendre ma décision avant de partir. Mais je me suis préparé du coup mentalement à plein de trucs. Et du coup, derrière, j'étais prêt à tout affronter. Mmh. Et vraiment, tous les trucs de stress qu'il y a eu, il y a eu des moments où c'était chaud. J'ai jamais perdu mon sang-froid et j'étais là en mode tout va bien, tout va aller, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Je sais pas comment j'ai fait un travail sur moi de en fait je m'attends au pire et du coup derrière en fait peu importe ce qui se passe bah ça
ouais.
va.
Ouais. Et puis il y a des fois les choses qui nous font le plus peur, on sait que c'est aussi ce qui va nous rendre le plus vivant. Enfin tu vois, t'as pas envie de fermer la porte aux peurs parce qu'il y a que quand tu les concrétise que tu sais qu'en fait t'es capable et que ça se passe bien et qu'après t'as moins peur pour l'avenir.
Ouais, carrément. Mai 2024, jour 2, transatlantique. Arrivé aux Saintes à 10h. Nous mouillons à terre de haut. Rien de mieux que de commencer par piquer une tête et du snorkeling dans une eau magnifique. Snorkeling, masque avec tuba dans l'eau. Les poissons sont au rendez-vous. Le programme, c'est de profiter de l'île l'après-midi et surtout de retrouver nos amis Arthur et Solène qui viennent d'acheter leur bateau en Guadeloupe. Par chance, on peut se croiser aux Saintes et passer un dernier moment ensemble avant que nos routes se séparent. Nous nous sommes donc retrouvés dans un petit bar où l'on a pu regarder la défaite de l'OM en Europa League. Et oui, que de foot en ce début de voyage. Nous avons donc pu dire au revoir à nos deux amis, mais finalement nous n'avons pas pu voir leur nouvelle maison flottante. Ce n'est que partie remise. Bon retour aux marins et bonne nouvelle vie à vous la famille. Enfin, nous sommes retournés sur le bateau où nous avons pu faire notre première partie de coinche. Lisa et David étaient ensemble contre Laura et moi. Malheureusement, ils ont gagné cette première, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. La revanche, c'est demain. Programme de demain, changer la grande voile, et puis direction Barbuda pour notre dernière étape avant de traverser. 10 mai 2024, jour 3, transatlantique. Après une nuit réparatrice et avec une température parfaite, nous nous réveillons tranquillement avec une mission en tête. Changer la grande voile, GV. Mais avant cela, petit tour dans l'eau obligatoire. Ça y est, on est prêt. Tout le monde s'y met. Première étape, enlever la GV. Check. Deuxième étape, sortir la nouvelle GV. Check. Troisième étape, changer les arceaux. Qui ne font pas la même taille, on a dû traficoter. Check. Quatrième étape, ranger l'ancienne GV. Check. Cinquième étape, monter la nouvelle GV. Check. Et passons moins d'efforts. Non pas sans galère, nous y sommes enfin arrivés. Par contre, nous avons perdu du temps sur notre timing. On aurait dû partir ce midi direction Barbuda, mais ce sera pour demain matin, puisque ça nous a pris la journée. Il faudra également qu'on teste de l'AIC, puisque pour l'instant, elle est juste installée. Nous finissons la journée tranquillement en se reposant et surtout en prenant notre revanche à la coinche avec Laura. Un partout, la belle demain. Mais avant cela, une bonne nuit de sommeil dans notre mouillage super tranquille nous attend. Programme de demain, quitter les Saintes, direction la Guadeloupe, faire un arrêt pour choper de l'essence et de l'eau, et puis direction Barbuda.
Pour conclure cette première capsule des trois premiers jours, et sans trop spoiler la suite, tu pourrais te dire ce qui pour toi a été le plus chouette et ce qui pour toi a été le plus dur dans le fait de vivre autant de temps sur un voilier.
Oui, parce qu'on n'a pas vraiment précisé, mais pour les personnes qui commencent à écouter et qui n'ont aucune idée de combien de temps peut prendre une traversée de l'Atlantique, nous on est parti pour un mois et demi. Donc ça fait un petit moment sur un bateau, ouais. Donc le plus dur déjà, je vais commencer par ça, je dirais que c'est, pour moi ça a été le sommeil, parce que...
Tu dois pas dormir super bien en mer.
Non, tu dors pas très bien. Après il y a des personnes qui, ça dépend vraiment, quelqu'un qui a un sommeil facile de base, il peut bien dormir, tu vois, si t'es pas trop stressé, tout ça, ça va. Tu peux quand même réussir à bien dormir, parce que ça te berce un petit peu quand même aussi, tu vois. Mais pour quelqu'un comme moi qui galère à dormir, qui ne dort pas en avion, qui ne dort pas en bus, qui ne dort pas en voiture, qui dort seulement dans son lit douillet, et ben ouais, j'ai galéré. Et puis en plus de ça, il y a un truc, c'est le stress, en vrai. Parce que, en fait, tu as la coque, et en fait, quand tu tapes sur la coque, et ben t'as quelques centimètres de milliers de mètres de profondeur juste en dessous de toi. Et puis en fait, même au-delà d'être l'océan, la mer, c'est la mort qui t'attend. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je voyais.
C'est la mort.
Mais non, mais c'est vrai en fait, parce que bon, la journée, ça va. Imaginons, tu tombes à l'eau ou ton bateau coule, quelque chose. Bon, tu t'en sors assez facilement. Tu une balise de détresse. Si t'es en journée, on est plusieurs sur le bateau, tu tombes, t'en as d'autres qui peuvent te voir. Si t'es pas dans un gros temps, ça peut aller. C'est plutôt OK. Par contre, la nuit, quand tu es tout seul et que les autres dorment, bon, on avait des gilets de sauvetage avec une ligne de vie.
Il n'y a pas des feux de détresse pour dans la nuit, genre faire des feux d'artifice non. Pour le repérage de.
Non, enfin si t'en as sur le bateau pour si jamais tu coules ou quelque chose, mais pas personne n'a son propre, tu vois, feu d'artifice sur lui qui peut déclencher.
Mais toi, techniquement, si vous étiez plusieurs sur le bateau, tu peux pas couler tout seul. Non. Quand t'es dans ta cabine
la nuit. Oui, par rapport à ça. Mais attends, tu vas voir, j'y viens. Donc, en fait, en étant du coup tout seul sur le, enfin de nuit sur le bateau, si tu tombes à l'eau, tu meurs. C'est fini, c'est terminé. Mais du coup, en fait, moi j'avais un petit peu ce rapport-là qui est aussi une dualité, parce qu'à l'inverse, je vais dire ce qui est merveilleux derrière, tu vois, c'est tout à fait, enfin, c'est les moments les plus apaisants de ma vie et les plus ouf, en vrai, tout simplement. Mais il y a cette dualité-là quand même. Et du coup, ce flip-là quand même de putain, si je tombe, l'eau est froide. Si je tombe là, je suis mort dans quelques heures. Et puis voilà. Effectivement, dans ta cabine, du coup, tu peux pas tomber et mourir en quelques heures. Par contre, tu peux te retrouver au milieu de la nuit par couler et puis paraître dans un sentiment de stress absolu. Et tu peux rien y faire, en fait. À la limite, tu vas pas forcément mourir parce que bon, tu as une survie derrière, tu vois. Mais va te mettre dans un. Tu vois les survies, ce que c'est. C'est les petits bateaux jaunes, là, tu vois. Ouais. Ouais. Et ben, ça, c'est. Ça s'appelle pas une survie pour rien. Quand tu es dessus, tu survis littéralement. Tu es dans l'eau froide, parce que t'as, en fait, l'eau rentre dedans. Du coup, t'es dans 20-30 cm d'eau. Et donc, tu te cailles le cul et tu peux être très vite en hypothermie. Et puis, ça, en fait, c'est pas comme un bateau où bon, bah, ça bouge, mais ça va. Tu vois, le bateau, il se fait à la forme de la mer, etc. Là, non, là, tu subis la mer entièrement. En plus, si t'es dans une tempête, même, bon, ce qui aurait pu être le cas, tu vois, si jamais on coulait, etc. Et ben, tu te retournes dans la survie, t'as le mal de mer, alors que tu l'as pas de base, tu l'auras forcément là, quasiment sûr. C'est vraiment, t'as pas envie de t'y retrouver dedans. Donc, quand tu entends, en fait, quand je me couchais moi dans ma cabine et que j'essayais de dormir, en fait, t'entends un bruit infernal déjà tout autour de toi, c'est-à-dire que du coup la mer tape contre le bateau, et en fait faut savoir que du coup là c'était un catamaran, notre bateau, donc entre les deux coques la mer rentre et tape sous le bateau, mais elle ne s'échappe, enfin contrairement à un monocoque où ça vient taper, l'air s'échappe, et ben là l'air ne s'échappe pas, en fait, enfin ça fait un bruit sourd, en fait, à chaque fois quand la mer arrive et tape par dessous un peu. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive assez souvent et ça fait vraiment des bruits. Et il y en a que ça va, hein. Enfin, il y en a, ils s'endorment. Enfin, les filles, je sais qu'à bord, elles s'endormaient plutôt bien, elles n'avaient pas de soucis là-dessus. Moi,
parce
c'était un peu plus.
Parce qu'on est des warriors, nous.
C'était un peu plus un flip de ma part, moi. Et ouais, je le raconterai à un moment, il y a carrément. Une fois où je me suis levé en sursaut dans la nuit, j'ai cru qu'on avait tapé un truc, qu'on coulait, quoi. Moi, je me suis réveillé, j'étais là en mode, je vais dans le carré, il y a ma pote qui est en train de faire son quart. Si elle est toute seule comme ça, c'est que j'ai à moitié rêvé ou que j'ai abusé le truc. S'il y a d'autres personnes qu'elle dans le carré comme moi qui viennent, c'est qu'on est en train de couler, il faut que d'ici 5 minutes, on casse, quoi. Et puis déjà, en descendant de mon lit, j'ai fait, ah ça va, il n'y a pas d'eau à mes pieds là. Tu vois, alors vraiment, ah non, quel sentiment.
Ouais. Du coup, cette dualité, il y avait sûrement un truc à la fois. Tu sais, il y a pareil, il y a des auteurs qui disent que tu te sens jamais aussi vivant quand tu as l'impression que la mort est aussi proche. Et est-ce que du coup, voilà, c'est ça. Il y avait un truc d'excitant à te dire qu'en fait, tu pouvais rencontrer la mort de manière très régulière sur ce un mois et demi.
C'était ça, mais je le dirais pas comme ça parce que, en fait, tu vois, avant qu'on parte, on s'est tous posés, nous quatre, là, l'équipage, on s'est posés autour d'une table et on s'est dit qu'on pouvait ne pas revenir, tu vois. Et du coup, ouais, c'est peut-être ça qui me faisait peut-être un peu plus flipper des fois, ou un petit peu plus stresser, tu vois, sur le fait de couler ou sur ce genre de truc. Mais en fait, ouais, tu te sens du coup aussi tellement vivant de, mais pas parce que tu penses que la mort est, enfin, peut arriver, mais juste c'est que oui, elle t'entoure un peu et que c'est juste, c'est magnifique en fait le paysage, cette mer, puis ces couchers de soleil qu'on a vu. Ouais, c'est trop apaisant. Enfin, tu te sens. Enfin, moi, j'étais des fois, j'avais le cœur qui battait, la chamade, tout. Ouais, j'étais en mode. Le sourire jusque, enfin, parce que j'étais là tout seul et puis je regardais, j'entendais le vent qui se fait, je gérais les voix tout seul, tu vois, t'es là, t'es, je sais pas, t'as envie de crier, t'es un peu, je suis le maître du monde, tu vois, t'es un peu, alors que, bon bah t'es juste,
ouais,
mais c'est, ouais, c'est un sentiment qui est assez ouf.
Waouh, bah merci pour ce petit moment de voyage, c'est cool, et puis bah on te retrouve chaque semaine de toute façon.
Avec plaisir.
Trop cool. Merci beaucoup.